When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Déprime. Non, pas le FC Stream Team, c'est le FC Déprime aujourd'hui. Voilà, on est de retour en France, l'aventure est terminée et vous le voyez à mes côtés, il n'y a plus Maxime. Mais il est là, mais il est loin, il est à des kilomètres, Voilà, Maxime, c'est très compliqué, la vie sans toi, c'est très compliqué, j'ai très mal dormi cette nuit. Comment ça va toi?
Ça va pas terrible. Déjà, là, je trouve que t'as le teint blafard comme moi. Là, on est descendu de l'avion, on a pris de la pluie et 15 degrés de moins. J'ai redécouvert un vêtement que je ne connaissais plus, le pull vert, voilà, le sweatshirt à capuche même. Donc ouais, c'est très dur. Voilà, c'est le retour à la vie normale. Voilà, comme les Bleus un peu qui sont tombés de leur piédestal. Donc il faut quand même faire une émission parce qu'on avait promis au soir de la finale. Lapsus révélateur de huitième de finale de revenir. On avait dit demain, donc hier, mais c'était encore un peu trop dans les âmes et fallait quand même laisser refroidir.
Et dans les cœurs surtout.
Donc voilà, maintenant on est de retour à la maison. Il fait moche. On n'a rien d'autre à faire, donc on va discuter avec vous.
Exactement. On va parler du FC. On va parler de l'actualité des Bleus. Enfin, de l'actualité. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. L'actualité des Bleus. On va faire un premier sujet avec le bilan à froid. J'allais dire, on va dire un peu plus de 24 heures après le fiasco monumental de Bucarest. Bah, on va revenir sur cette énorme quand même désillusion tricolore et on va essayer de comprendre un petit peu comment on a pu en arriver là, Maxime. Deuxième sujet, parce qu'il faut de l'espoir, parce qu'il faut une direction, parce qu'il faut une lumière au bout du tunnel, Maxime, de quoi on va parler ?
On va parler du Qatar, évidemment. Qatar 2022. Voilà. On est en 2021, ça ne vous a pas échappé. Le Covid a tout foutu en l'air. On devait avoir l'Euro en 2020, il est en 2021. Donc, le Qatar, finalement, c'est déjà demain. C'est en novembre 2022. On va tout simplement essayer de voir comment les Bleus peuvent redevenir champions du monde et réussir le doublé mondial, puisqu'ils n'ont pas réussi le doublé mondial-euro.
Et on terminera. Ah, Maxime, tu te souviens du troisième sujet cette fois ou pas ?
Coup de cœur, coup de griffe.
Voilà, un petit coup de cœur et un petit coup de cœur, un petit coup de griffe sur l'aventure de 16-17 jours qu'on a vécu. On essaiera de ressortir chacun un bon moment. Alors, on se contentera peut-être du terrain et de l'organisation. Maxime, on ne parlera pas de ce qui s'est passé après 22 heures, hein, surtout tout concernant. Parce que là, je n'ai pas que des coups de cœur et des coups de griffe.
Là, tu vas aller trop loin.
Oui, je vais aller trop loin. Mais on va rester quand même sur le terrain, on va dire, Maxime.
Ça dit, non, mais là, pour ceux qui douteraient de notre probité, on est les deux journées, c'est plus sérieux de France et de Navarre.
Alors, on n'a rien à nous reprocher.
Ça, rien à nous reprocher. On va au restaurant, on rentre. Parce qu'en plus, là où on était, il y avait des couvre-feux. Et il ne fallait pas choper le Covid.
Exactement. Il ne fallait pas choper le Covid ou tout le reste. Alors, on me dit d'arrêter de crier parce que ça sature. Je vais arrêter de crier.
Il recommence. Voilà. Et c'est revenu. En fait, tout redevient à la normale. C'est terrible.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, ce n'est pas vraiment une journée où j'ai envie de m'enflammer, mais je ne peux pas m'empêcher. Donc, merci Adrien, d'ailleurs, qui est aux manettes, qui nous glisse tout ça dans nos belles oreillettes. Merci à Quentin pour l'habillage. Et puis, on est parti. Ce sera donc le dernier podcast de cette série sur l'Euro. On reviendra au FC Stream Team sans doute la semaine prochaine pour demi-finale et finale. On va terminer et on va commencer.
Si je peux me permettre, on n'a pas passé les 100 000 écoutes sur un épisode. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. N'hésitez pas à télécharger. Et sinon, avant cet épisode-là, on en est quand même à 620 000 écoutes en 14 jours. Donc, c'est plutôt énorme pour un podcast. Donc, on vous remercie évidemment de votre fidélité. Sans vous, on ne serait rien.
Putain, Maxime, c'est… On dirait un remerciement, on dirait les Molières. Là. Et d'ailleurs, on est remonté dans le top 10 Apple.
On est 7 ou 6, donc c'est super. Voilà,
comme dirait Benzema, ce fort charbon. Quoi, hein. Merci à tous.
Et d'ailleurs, j'allais le faire à la fin… Ils se reconnaîtront. Bonjour à la team Bonchard.
Voilà, exactement, qui nous a accompagnés pendant ce séjour. Alors Maxime…
Des amis de droite, mais des amis quand même. Voilà, on arrête là.
Exactement. Maxime, on va revenir sur cet euro de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en retient? Il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a une journée entière et un peu plus qui s'est passée. Quel bilan tu tires de quand même cette monumentale désillusion?
Alors, je ne vais pas faire un spoiler et pas gâcher la suite de l'émission, mais j'en tire à peu près les mêmes choses que j'en tirais lundi soir devant le stade à Bucarest. Alors, vous allez dire pourquoi écouter? Bah, parce que ça dit quelque chose aussi de cette équipe et de cet échec. Ça veut dire que l'analyse qu'on a faite à chaud ressemblait à celle qu'on a deux jours après. Ça dit quoi? Bah, ça dit que cette équipe n'a pas de vice caché finalement. C'est qu'on est sur un vrai échec sportif, tout simplement. Il n'y a pas d'échec moral. J'ai entendu parfois de l'arrogance, mais pas trop quand même. Non, ce n'est pas une équipe arrogante. Ils n'ont pas pris les Suisses de haut. Ils se sont plantés simplement. Et on n'est pas sur un échec moral à la Naïsna. Donc, je dirais qu'on est un peu entre 2002 et 2010. Le vrai échec sportif, c'est-à-dire ce n'est pas les boulards et ce n'est pas non plus une équipe nocive ou toxique. Ce qui s'est passé, on l'a dit, il y a un principal responsable, il s'appelle Didier Deschamps. Il s'est planté dans ses choix. Il a au moins une circonstance atténuante, c'est-à-dire le problème physique. 9 joueurs blessés sur 26 à un moment de la compétition ou de la préparation, c'est gigantesque. Il faut quand même le rappeler. Il se retrouve sans arrière-gauche. Alors moi, quand j'entends ou je lis qu'il fallait amener Théo Hernandez, bah oui, mais vraiment, on peut amener aussi 10 arrière-gauches. Sauf qu'il en perd 2 et ça n'arrive quand même pas tous les jours. Donc, il y a aussi quand même une part de déveine. Après, le problème, c'est que il a trop tenté, il a fini par se perdre. Et surtout, son erreur de base, pour moi, c'est d'avoir commencé par l'attaque. C'est-à-dire que les équipes de Deschamps, les équipes qui gagnent des titres, de toute manière, ce sont des équipes qui commencent de l'arrière. Vous avez beau avoir les meilleurs joueurs du monde devant, eh bien, il faut commencer par être fort derrière. L'équipe de France l'a été contre l'Allemagne, a été exceptionnelle dans sa maîtrise. Et puis, tout est parti de travers contre la Hongrie. Je pense, pour en avoir parlé plus tôt avec Martin, qu'ils ont été surpris par la chaleur. Ce qui fait que physiquement, ils se sont cramés et que ça a instillé une forme de doute psychologique. Et à partir de là, le verre était dans le fruit. Et pour repartir, ils n'ont pas su repartir être d'équerre parce qu'ils n'étaient plus dans leur confort et dans leur certitude.
Moi, je pense que la principale raison, comme tu l'as dit, Didier Deschamps, je pense que cette équipe et son sélectionneur se sont laissés aveugler. Ils se sont laissés aveugler par, c'est ce qu'ils nous disaient en début de la préparation, on est la meilleure équipe du monde, etc. On est la meilleure attaque du monde, Coman et Tolisso qui disaient ça. Et je pense que voilà, il y a eu une sorte d'aveuglement collectif à penser que, comme tu l'as dit, la réussite de cette équipe allait passer par la réussite de son trio offensif. Et on en a oublié l'essentiel. C'est-à-dire que, et puis tout a été un petit peu moins bon qu'en Russie. L'ambiance de groupe. La préparation, la vie de groupe, toutes ces choses qui sont essentielles, tout a été un petit peu moins bon. Mais comme tu l'as dit aussi, il n'y a pas une explosion du groupe. Ça n'a pas tiré dans les pattes. Je ne pense pas qu'il y en ait qui ait tiré la couverture à eux. Voilà, il n'y a rien eu de spectaculaire. Et c'est ça qui rend quand même l'analyse non pas délicate, mais on est obligé d'atténuer ça. C'est que finalement, on est sur un échec un peu mou. Alors, il est spectaculaire parce que on l'a vu de nos yeux finalement. Contre la Suisse, c'était palpable presque que cette équipe de France se perdait, se noyait. Mais il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas d'histoire cachée derrière cet échec. Donc, on est sur un échec un peu mou, ce qui donne un petit peu d'espoir pour la suite, ce qui est inquiétant aussi parce que c'est difficile de déterminer des responsables. Alors, en dehors de Didier Deschamps, comme tu as dit, Maxime, et moi, comme je l'ai écrit plusieurs fois sur le site, donc du coup, on y est déjà beaucoup revenu dessus, mais en dehors de Didier Deschamps qui s'est complètement perdu, et c'est assez surprenant parce que c'est un homme qui était basé sur des convictions et on lui reprochait, alors nous, peut-être un peu moins que d'autres, mais d'être parfois borné. Est-ce qu'il a trop entendu ça et qu'il s'est dit « Ok, peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre formule. » Mais en tout cas, voilà, en dehors des champs, il n'y a pas non plus de choses qui sautent aux yeux, de raisons absolument… Pour trouver une clé, ça va être compliqué. Voilà. En gros, pour trouver une clé, ça va être compliqué.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est une équipe qui n'a pas de vice caché. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, tout était à la surface. Alors évidemment… On ne va pas vous dire que Giroud était très content de passer sa vie sur le banc, comme tous les remplaçants du monde entier.
Et Griezmann et Mbappé, c'est absolument pas les meilleurs amis du monde et c'était très froid entre eux. Mais je pense que.
Mais on peut survivre exemple, pour ça.
Oui,
ça.
À la Coupe du Monde 2018, voilà. Mbappé-Giroud, c'était pas non plus l'entente phénoménale, mais ça a fonctionné. Mais parce qu'il y a plein de petites choses qui se sont un tout petit peu moins passées. Et donc, forcément, c'est une mécanique de haute précision. Donc, quand ça se passe un tout petit peu moins, quand les réglages sont un peu moins hauts que d'habitude, eh ben, c'est une sortie de route, tout simplement.
Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, alors j'y ai repensé après coup, souvenez-vous de la préparation, le match contre la Bulgarie, le match contre le Pays de Galles, et cette impression, même ces mots de Didier Deschamps, même des joueurs, on n'a pas été assez testés. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 2 fois 3-0, ça roule comme sur des roulettes, il y a Rabiot, ok, il y a la cheville, il y a Hernandez qui se blesse au genou, et il y a la béquille de Benzema. Et finalement, il n'y a jamais eu une inquiétude énorme. C'est marrant, parce que même quand Benzema se blesse, on pourrait se dire, pas de peau, il va rater l'Allemagne. Finalement, c'était une béquille, ça s'est bien passé parce qu'il y avait une forme de certitude. La Coupe du Monde de 2018, elle ne commence pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce match contre les États-Unis qui n'est pas terrible. Et puis après, il y a l'Australie qui n'est pas géniale. Ça commence finalement sur un warning, un avertissement qui dit « Attention les gars, ce n'est pas gagné ». Là, ils ont fait, entre guillemets, à l'envers, et on ne va pas leur reprocher d'avoir été excellent contre l'Allemagne, mais de maîtriser complètement ce premier match et qu'on se dise « ça va rouler, voilà. » Et je pense que le fait de ne pas avoir été testé puis d'avoir été dans ces certitudes-là face à l'Allemagne fait que bah, quand ça a commencé à aller moins bien, ils n'ont pas su récupérer,
ils ont jamais trouvé de solution.
Rattraper le fil. Après, il y a aussi, tu parlais de Didier Deschamps, moi je l'avais écrit aussi avant, que appeler Benzema, c'était un énorme risque. Oui, c'était un énorme risque, mais aujourd'hui, il n'y aura personne pour dire qu'il a été raté, même si je pense que l'erreur de Deschamps là-dessus, c'est comme tu l'as dit, c'était d'être aveuglé par ça. C'est-à-dire que là, l'attaque est tellement forte et tellement belle qu'il faut mettre tout le monde au service de cette équipe-là. Or, c'est pas comme ça que fonctionne Deschamps. Quand on dit on le caricature entraîneur défensif, non, ça c'est des conneries. Parce que regardez le Monaco de 2004, c'est pas une équipe défensive, c'est pas la question. Et regardez ce qu'il a voulu faire là, ce qu'il a voulu faire contre l'Australie en 2018. Mais sauf que Deschamps, généralement, il s'adapte à ce qu'il a. Et bien là, il s'est adapté à ce qu'il a, mais dans des proportions gigantesques, en oubliant presque ses bases et ses basiques, c'est-à-dire de dire il faut que ce soit solide derrière. Et à partir du moment où c'était moins solide derrière et tout ce qu'on se faisait vers l'avant, le degré d'intensité et aussi le centre de gravité de cette équipe est vraiment allé trop vers l'avant et elle s'est perdue. Voilà. Et c'est encore une fois un échec qui, pour moi, est assez simple à expliquer, où on ne va pas aller chercher la petite aide. Je serais très étonné que dans 3 mois, on apprenne un truc planqué parce que c'est pas le sens de cette équipe et de cette histoire-là.
Non, parce que c'est un groupe relativement sain, relativement uni. Je veux dire, à l'entraînement… Encore une fois, évidemment qu'il y a des groupes. Évidemment, mais en 2018, il y avait des groupes aussi. Hein. En 2018, il y avait des groupes. C'est simplement que, comme tu l'as dit, elle était plus solide sur ses bases. Mais les bases, elles sont encore là. Donc, c'est ce qui donne quand même, malgré tout, de l'espoir pour la suite. C'est que finalement, la solution, ce groupe, je pense qu'il l'a lui-même… Est-ce que Deschamps va être en mesure de trouver lui la solution? Parce que finalement, Benzema, son arrivée a tout chamboulé et aujourd'hui, on ne connaît pas la solution. On ne sait pas comment cette équipe peut jouer avec Benzema en restant solide. On ne sait pas. Donc Deschamps, la bonne nouvelle, s'il reste, c'est qu'il va avoir en gros 1 an et demi pour trouver la solution. Là, il a essayé en 3 semaines, en 2 semaines même, et il ne l'a jamais trouvé tout simplement. On part sur le Qatar, Maxime ?
Et on va partir sur le Qatar, direction Qatar Airways. On ne fait pas de pub, mais bon, voilà. On
est déjà quand même, là, j'ai l'impression.
On est déjà dans l'avion, là. Bah, si on peut être en première. Non, parce que ça coûte une blinde. Il paraît que tu es bien mieux assis que derrière. Moi, je n'ai jamais fait. Donc, toi, Martin, tu sais, toi, je pense.
Ah, je n'ai jamais fait. Moi, je ne prends plus l'avion. sauf pour le travail. Sauf pour le travail, Maxime.
Et pour les vacances.
Juste pour le travail, Maxime. Donc. Évidemment, on va se projeter sur le Qatar 2022, novembre 2022. Ça va arriver très, très vite, hein, puisque finalement, les Bleus auront quoi ? Allez, 12aine de matchs peut-être ?
C'est un sprint.
Pas beaucoup plus. Hein,
la qualif va se terminer en décembre, en gros. Enfin, un peu avant novembre. C'est un sprint. Il y a un sprint vers le Qatar. Et puis déjà, on sera parti dans cette Coupe du Monde qui s'annonce unique, puisqu'en hiver, au milieu d'une saison. Et on espère aussi qu'elle sera unique pour les Bleus, parce qu'elle dira qu'ils vont réussir à doubler leur titre mondial. Alors Martin, c'est simple. Comment on double un titre mondial avec sûrement, je dis bien, le même sélectionneur et en s'étant planté au milieu?
Alors, avec le même sélectionneur, déjà, c'est une question qu'il faut poser. Est-ce qu'il faut partir avec le même sélectionneur? Moi, je pense que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le groupe réagit encore. à Didier Deschamps. Le groupe est soudé autour de son sélectionneur. Ça, c'est sans doute le plus important. Le duo avec le président marche encore. Voilà. Après, la question qu'il faut se poser et que Noël Le Graët doit se poser, c'est est-ce que Didier Deschamps, qui a beaucoup tenté et qui n'a jamais trouvé, peut trouver la solution, et notamment sur cette attaque-là, parce que pour moi, c'est là le point essentiel. Si l'équipe de France veut faire une grande Coupe du Monde, elle a les armes, mais ça, personne ne va douter. Ce n'est pas le fiasco monumental de cet Euro qui rend Varane mauvais, Pogba ridicule, Mbappé en dessous de tout et Griezmann un joueur de DH. Absolument pas. C'est-à-dire que le matos, Deschamps, il l'a. Il l'avait et il l'a toujours. La question, et pour moi, tout va tourner autour de ça, c'est comment faire tourner cette attaque-là. Est-ce qu'il faut garder ces trois? Mais c'est des questions, des vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce qu'on peut garder ces trois-là? Dans quel schéma il faut les faire jouer? Et parce que derrière, on voit que ça déséquilibre tout. Donc, c'est la question essentielle. Évidemment, il y a des questions subsidiaires, mais qui tournent autour de ça aussi. Le rôle de Kylian Mbappé, les pénaltys, les coups francs. Il va falloir tout mettre à plat. Il va falloir avoir une grande discussion. Il va falloir aussi que Mbappé, entre Mbappé, Griezmann et Benzema, ça se réchauffe un petit peu. Mais ça, c'est aussi à Deschamps, le manager, de taper du poing sur la table, de donner des directions à chacun, d'installer chacun dans des rôles. J'insiste là-dessus, parce que là, on était sur la liberté totale, ils font ce qu'ils veulent, les pénaux, les coups francs, ils font ce qu'ils veulent. Non, on voit que ça ne marche pas, que ça ne peut pas fonctionner. Mbappé veut plus de responsabilités, et peut-être que Deschamps le lui donnait, et en donnait moins d'autres. Ou alors, est-ce qu'il doit insister sur Griezmann, patron des Bleus, et dire à Mbappé, écoute, pour le moment, tu vas te calmer. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est autour de ça que ça fonctionne. Parce que finalement, la défense, bon, oui, effectivement, il va falloir trouver un concurrent à Pavard. Ça, c'est sûr. Il va falloir trouver quelqu'un qui le challenge un peu. Est-ce que ça sera Koundé? Cette Euro ne répond absolument pas à la question. Est-ce qu'il faut en trouver un autre? Peut-être. Si on veut varier les schémas, il faut trouver des pistons aussi, parce que là, la France n'en a pas. Mais ça, pour moi, c'est des questions en fait, qui découlent de ce trio offensif. Pour moi, voilà, c'est la question centrale. Pour être champion du monde, c'est réussir à faire jouer ces trois-là ou alors choisir de ne plus les faire jouer.
Moi, les trois de devant, je les garde ensemble. Parce que encore une fois, je ne vais pas être aveuglé par leur talent, mais j'ai envie d'être aveuglé par la complémentarité qu'il y a sur le papier. C'est qu'on a
mais
trois
juste
joueurs…
Mais juste, si on voit que ça ne marche pas au bout d'un moment…
Attends.
Voilà, peut-être qu'à un moment donné…
Oui, ça il faut… Tu sais, c'est les sacrifices des équipes. Hein. À un moment, il y a toujours des grands joueurs qui passent à la trappe. Ça a été Benzema pendant 5 ans et demi, il faut le rappeler. Alors, c'est pour d'autres raisons que sportives, mais n'empêche que sportivement, à la fin, il y avait une cohérence à jouer avec Giroud plutôt qu'avec un joueur comme Benzema. On le rappelle, ils sont champions du monde ainsi. Moi, je les ferais jouer ensemble parce qu'encore une fois, sur le papier, il y a un organisateur, un finisseur et une bombe sur le côté. Sur le papier, c'est complémentaire. Et ça n'a pas marché, mais je n'ai pas l'impression non plus que ça a été un échec total parce que encore une fois, je pense qu'il y a des moments, des bribes qui disent que ça peut marcher. Le deuxième but contre la Suisse, par exemple. Maintenant, je ne jouerai pas à 3 devant, je jouerai à 4 avec un quatrième mec sur un côté. Sûrement le côté droit, mais alors là, je sais, tu vas venir, c'est qu'il faut le trouver ce type-là.
Bah, Kingsley Coman.
Je ne pense pas que ce soit Kingsley Coman, parce que là, c'est trop offensif. Et Deschamps, je pense qu'il ne le fera pas. Il faut un joueur comme Lemar à droite. Voilà. Ou à gauche, si Mbappé acceptait, ou aller jouer à droite. Mais je pense qu'il manque aujourd'hui ce joueur qui t'offre une assise défensive suffisante qui te permet de jouer à 4 mecs offensifs, mais qui en plus t'offre quelque chose offensivement. Tolisso, ça ne l'a pas fait. Lemar, on ne sait pas très bien à quoi il a servi pendant cet Euro. Lemar a cette tête-là. Souvenez-vous, le mois de mars, on est quand même à se dire, OK, il démarre, si ça se trouve, ça va être lui, ça va peut-être être comme ça, le 4-2-3-1. Moi, je pense qu'il faut… Il faut, parce que tu étires les défenses, et à un moment, il faut le faire, parce que sinon, c'est l'entonnoir, et on l'a vu, c'est compliqué. Maintenant, mais je ne sacrifierai pas encore, du moins, ces trois de devant. Une chose ensuite, pour espérer redevenir champion du monde, déjà, il faudrait le dire, c'est un cas unique. Non pas de revenir champion du monde, mais de redevenir champion du monde après avoir connu un échec majeur entre les deux. Voilà. La difficulté dans le foot, et notamment quand vous êtes sélectionneur, c'est essayer d'être et d'avoir été. On l'a vu avec Joachim Löw, qui a été, qui a voulu continuer à être. Ça n'a pas marché, l'Allemagne s'est fait sortir.
Deux fois.
Souvenez-vous de l'Espagne. Elle arrive en 2014, évidemment, favorite du mondial, logique, ils viennent de gagner 3 dernières compétitions. Et jusqu'en 2016, on sent que c'est une équipe qui continue quand même sur ses bases. Parce qu'elle se dit, mais non, mais ces joueurs-là, ils savent gagner. Or, ça, c'est une connerie, tout simplement. De dire que les joueurs savent gagner, c'est une bêtise. Ils ont été champions du monde en 2018. C'est fantastique, on ne leur retirera jamais. Ils sont dans la légende du football français, dans la légende du sport mondial. Mais ça ne donne aucune garantie pour la suite. Alors moi, si j'avais un conseil à faire à Didier Deschamps, c'est que sa première liste, s'il est encore là, fin août, début septembre, il met un gentil petit coup de pied dans la fourmilière. Alors, je ne suis pas du genre à dire il faut tout changer, mais à la marge, il faut qu'il y ait du 109, voilà. Pour qu'il y ait un message.
Mais alors, qui est-ce que tu vires ? Parce que ce qui rend cette mission compliquée, mais par contre, j'abonde à 200% ce que tu dis, mais quand tu te penches sur la liste, ceux qui ont été champions du monde et qui sont encore là, c'est Varane, c'est Pogba, c'est Griezmann, c'est Mbappé, c'est Lloris. Ce sont pas des joueurs qui sont sur un déclin absolu. Ce sont des joueurs qui, en club, restent des références et qui ont donné des garanties en équipe de France depuis quelques mois. C'est ça qui
Ouais, mais là, oui, d'accord, quelques mois, mais je dis toujours, il n'y a qu'un mois qui compte. Hein. Enfin, 15 jours, c'est le dernier. Donc, à un moment, il faut trancher. Mais à un moment, de toute façon, il y a deux choses.
Est-ce que tu as des noms en tête ?
Soit Deschamps, par exemple, Pavard, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'emmener, mais il faut lui mettre un très sérieux mec et pourquoi pas, dès le premier match de qualif, se dire… Ben, je te mets sur le banc Coco, c'est avec lui qu'on va tester. Alors évidemment qu'il y a une part de risque, parce que Jules Koundé, voilà, sauf que là, c'est des qualifs de Coupe du Monde. Il y a un petit peu plus de marge. Voilà. Peut-être que des joueurs qui étaient dans le groupe et dont on n'est pas très certain, peut-être que l'anglais, je le condamne pas évidemment l'anglais, et peut-être que là, il faut le faire sortir de la liste, tout simplement, voilà, pour amener un autre défenseur. Voilà. Et de toute façon, tu prends un risque relatif, parce que ta charnière, pour l'instant, c'est Kimpembe et Varane. Et ça, je ne dis pas qu'il faut y toucher. La défense, il y a 3 postes sur 4 sur la défense sur lesquels je ne toucherai pas, parce qu'il n'y a pas de raison de sortir Hernandez. Il est blessé, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a pas forcément de raison de sortir Digne. Voilà. Et tu peux très bien dire que tu appelles Mendy, que tu le fous à droite sur le premier match, et tu le mets devant Pavard. Voilà. Ça sera discuté, ça sera discutable, mais il faut un peu piquer les égos. Alors évidemment, les égos de Kanté, il n'y a pas besoin de le piquer. Celui de Pogba, il n'y a pas besoin de le piquer. Devant, ça mériterait peut-être un peu, mais c'est très compliqué. Parce que là,
parce que la concurrence, elle est loin. La concurrence, elle est très loin.
Oui, mais il faut montrer qu'elle existe et qu'il y a quelque chose. Voilà. Et j'appuierai, tu vois, par exemple, un Thuram, je le mettrai quoi qu'il arrive. Par exemple. Et il faut chercher. Il y aura le début de saison, évidemment. Et encore une fois, il faut le dire, le Qatar, c'est loin. Alors, c'est prêt et c'est loin à la fois. 18 mois, c'est très long. Il y a au moins 6-7 joueurs qui vont venir bousculer la hiérarchie. C'est sûr, des espoirs qui peuvent prendre du grade, etc. C'est tout ça. Mais en tout cas, il faut le faire. Même si c'est un principe, il faut faire bouger les lignes. Alors, évidemment, il ne faut pas perturber les équilibres dans les grandes largeurs. Mais il est obligé. Parce que si dès le début, il donne l'impression de redonner confiance et de redonner les clés exactement au 23 même, ce sera une liste de 23, ça n'ira pas, le message ne sera pas bon. Et surtout, tu installes les joueurs finalement dans une forme de confort. Parce qu'en disant, bah ouais, mais en club, on est toujours bon. Oui, certes, sauf que, regarde, il y a le contre-exemple. En club, Pogba n'est pas très bon, il est exceptionnel en équipe de France. Donc, il faut pas, je pense qu'il faut, il est obligé de le faire parce que le message est important et ça participera, tu l'as dit tout à l'heure, de sa reprise de main sur l'effectif. Il ne l'a pas perdu, mais de dire, je durcis. La liberté devant, il est intelligent, Deschamps. Il mettra la barre où il faut, mais il dira. Toi, tu es à gauche, toi, tu es à droite, toi, tu es sur les pénaltys, toi, tu es sur les coups francs. Voilà, point barre.
Voilà, donner des directions et mettre les joueurs dans… Mais alors, la question que je pose aussi, Maxime, parce qu'on part du principe que Deschamps, c'est acquis, qu'il n'y a pas de problème, etc. Il y a quand même une tentation Zidane. Pour toi, la tentation Zidane, elle vient trop tôt.
C'est pas une tentation, c'est un recours. C'est un recours évident. C'est-à-dire que l'équipe, le France, n'est pas à poil.
Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans des conditions qui font que.
Moi, je vais pas me contredire sur ce que j'ai dit. Il m'arrive de me tromper, mais quand je me trompe, je continue dans la même voie. Moi, je pensais vraiment que Didier Deschamps partirait parce que c'est un échec monumental. Voilà. Il se trouve que il a pas envie de partir, semble-t-il, que Noël Le Graët, je pense qu'il en fait un peu des caisses, c'est-à-dire attention, on va discuter, etc. Mais je pense que Le Graët, il suivra. C'est-à-dire que si Deschamps dit qu'il reste, il restera. Et s'il part, là, en fait, Le Graët, il est un peu dans une situation très confortable. Il vient d'être élu à la tête de l'équipe de France, il a dit Didier Deschamps, si Didier Deschamps s'en va, il a Zinedine Zidane derrière. Voilà, c'est pas, il y a pire, on va dire. Après, encore une fois, un sélectionneur, c'est un autre métier. Je comprends que la tentation existe, et la tentation médiatique, la tentation des gens. C'est comme Michel Platini à l'époque. C'est qu'il y a des gens qui sont faits pour s'asseoir sur le banc de l'équipe de France, comme l'était Didier Deschamps quand il était encore joueur au début de sa carrière d'entraîneur, et même Laurent Blanc. voilà, ça fait partie de... Vous auriez dit en 98, quels types sont les plus à même de s'asseoir sur le banc? Déjà, vous n'auriez pas mis Zidane, vous auriez mis Deschamps, Blanc, vous disiez, j'ai envie de les voir là. Maintenant, on a envie de voir Zinedine Zidane, son heure viendra. Ça aurait pu être celle-là, je pense que ça ne sera pas celle-là. Est-ce que ce serait bien? Honnêtement, j'en sais rien. En fait, je n'ai pas la solution pour dire que
en fait,
mettrait le, petit pied dans le coup de pied dans la fourmilière. Je ne sais pas. Ça.
Non, mais en tout cas, il apporterait un œil nouveau. Ça, c'est une certitude. Le problème, c'est de savoir, encore, on va se répéter, mais c'est de savoir si Deschamps va trouver la clé pour cette animation-là, pour cette équipe-là. Sur un mois, il a montré ses limites. Est-ce que sur un an et demi, il peut y arriver? C'est toute la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Zidane apporterait quelque chose de nouveau. Il apporterait aussi ce vent frais là dont tu parlais. Rien qu'avec sa présence, il apporterait sans doute une remise en cause de certains, etc. Mais là où c'est difficile de trancher dans le cas Zidane, c'est que c'est ce qu'on disait aussi dans la première partie de cette émission, c'est qu'on sent pas que le groupe a lâché des champs. On sent pas qu'il y a un groupe qui explose. On sent qu'il a encore de l'emprise sur son groupe. Après, on peut lui reprocher aussi un manque d'autorité. Est-ce que Zidane...
Je pensais pas que j'entendrais ça un jour.
Mais ouais, mais c'est vrai. Mais est-ce que Zidane, parce qu'il incarne ou parce que il n'a pas de vécu avec ce groupe, donc il arrivera avec un regard neuf et avec ses idées à lui? Est-ce qu'il pourrait imposer des choses que Deschamps aujourd'hui n'est pas arrivé à imposer? C'est une question aussi.
Ah, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse, mais c'est sûr que de toute façon, le recours il existe. Voilà. C'est Zidane, si ce n'est pas Deschamps, il n'y a pas à tortiller. Voilà. Et qu'est-ce qu'il apporterait dans les choix? Moi, ça m'intéresserait. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça parce que lui ne répondrait pas. Mais il faudrait quasiment faire des entretiens, c'est-à-dire ou dire comme des entretiens d'embauche, dire qu'est-ce que tu proposes par rapport à l'autre. Mais Deschamps est déjà sous contrat, il faut le rappeler, Deschamps a un contrat qui court jusqu'en 2022. Alors, j'entends venir aussi les gens qui vont dire oui, mais les joueurs ne bougent pas parce qu'ils savent qu'il est sous contrat et que si on balance dans la presse alors que le sectionneur est encore en place, on se grille. Ça n'a pas empêché d'autres équipes de France de se planter, donc honnêtement, et des joueurs de balancer. Donc,
la certitude, c'est que généralement, quand même, c'est ce que tu disais, quand ça se passe mal et qu'on maintient la confiance au sélectionneur, je ne sais pas s'il y a des exemples où ça fonctionne derrière.
De toute façon, tu prends les champions du monde.
L'Allemagne, Domenech, parce qu'on peut considérer qu'une finale de Coupe du Monde, ça reste un bon résultat. Mais derrière, il y a l'Euro 2008 où c'est une cata et on voit où ça mène. C'est rarement quand même rebond avec le même sélectionneur. C'est rare, voire inexistant.
Tu prends les équipes avec les grandes équipes, l'Allemagne, elle ne se plantait jamais jusque-là, donc c'était compliqué de dire qui s'est joué. Le Brésil, c'est le Brésil. Mais la règle est simple, même tu prends le Brésil, ça se plante, ça change. Et l'Italie, c'est un peu différent, parce que l'Italie est vraiment une équipe nationale, on va dire, de one shot. C'est-à-dire qu'elle n'installe jamais une dynastie, mais elle est très forte. Alors évidemment, à part 34-38, mais ça c'est autre chose. 82, c'est le one-shot de la Coupe du Monde. 2006, c'est aussi une forme de one-shot aussi. Mais on n'a jamais l'impression que cette équipe va dominer. Sur des équipes qui semblent destinées à dominer, quand il y a un coup d'arrêt, ça ne revient pas tout de suite. Voilà. Et l'équipe de France est bien placée pour le savoir en 2002. Il y a eu 2004, et il a fallu changer pour revenir en 2006. Même si c'était un petit coup de, j'allais dire un petit vent frais, c'est-à-dire de ramener Domenech, parce qu'à l'époque c'est aussi ça, c'est aussi changer et de ramener les anciens. Donc c'est très difficile encore une fois vouloir être encore. C'est très compliqué. On souhaite à l'équipe de France de l'être, mais une chose est sûre, Didier Deschamps cette fois, il n'aura pas le choix. C'est-à-dire que ses constructions d'équipe finalement en 2018, il trouve son équipe pendant le mondial. Il trouve ses hommes avant. Ça, c'est indéniable parce qu'il y a le groupe qui va bien. Mais l'équipe, il la trouve pendant le mondial. Là, il a fait un petit peu pareil parce que ses tests, dans tous les sens, ça allait pas. Là, il va vraiment avoir, alors peut-être pas dès la rentrée, mais à partir de la qualification, il faudra vraiment qu'il travaille sur quelque chose de fixe et se dire, voilà, la ligne, c'est celle-là, on va là-dedans et que les joueurs retrouvent cette confiance et ne soient pas perdus à se dire, ah ben là, on va passer à 3, on va passer à 4. Voilà, je pense que là, la différence, c'est de devoir construire son système et sa logique bien en amont de la compétition.
Être, avoir été, ne plus être. Si vous avez des enfants qui sont en train d'étudier l'auxiliaire être, je peux vous dire, mettez-les devant le FC Stream Team. Maxime vient de faire tous les temps, toutes les conjugaisons. Là, il est parfait, Maxime. Je te félicite, Maxime.
C'est la fatigue, là. J'ai un peu mordu sur un des.
Et Maxime, même quand tu te trompes, c'est un bonheur.
Surtout.
Même quand tu te trompes, tes échecs sont des réussites.
Bien que ce soit. Ah oui, pour les autres, j'imagine bien.
Oui, pas pour toi, parce que tu as un degré d'exigence qui est surélevé, mais voilà. On va conclure toute cette aventure par, Bah, par un coup de gueule, un coup de gueule, un coup de griffe.
Ça va être très personnel, là. C'est notre moment.
Voilà. Et un coup de cœur chacun. Si vous avez suivi l'émission, peut-être que ça ne vous surprendra pas plus que ça. Bon, on va démarrer parce que c'est le plus romantique d'entre nous deux, par le coup de cœur de Maxime.
Alors, mon coup de cœur, et il est lié un peu à 7 euros finalement. Je suis arrivé à 7 euros en traînant des pieds, non pas que j'étais triste de le couvrir, mais je pars du principe qu'une compétition internationale a un goût particulier, c'est-à-dire qu'elle se calque sur le pays dans lequel vous êtes, en Afrique du Sud, au Brésil, en Russie, ça raconte une histoire. J'avoue que je me suis dit que 7 euros à 12 pays, puis à 11, et en plus avec le Covid, ressemblerait à pas grand-chose. Et bien finalement, j'en suis un peu revenu, alors pas en dehors des stades, parce que c'était morne pleine, et ça c'était assez triste de manquer ce côté de fête, même si j'ai connu d'autres euros, comme en Ukraine ou à Donetsk, hormis les jours de match, il ne se passait rien du tout. Il manquait quelque chose. Maintenant, je trouve que au moins le parcours de l'équipe de France par Munich, Budapest et Bucarest avait un goût particulier. Voilà, c'est les matchs à l'Est. C'était quelque chose. Il y a eu quand même une forme d'unité. Et si je dois ajouter quelque chose, parce que ça fait partie du truc, c'est évidemment d'avoir revu du public dans les stades. Parce que ça faisait extrêmement... ça faisait du bien. En Hongrie, à Budapest. Alors évidemment, quand j'étais avec les supporters français... dans la tribune derrière le but de Lloris, en première mi-temps, serré, collé à 38 degrés, et je voyais sur les messages dans le stade qu'il fallait avoir un masque, j'étais beaucoup moins serein. Mais finalement, ça a fait du bien, et on pourrait parler du France-Suisse qui, lundi, était seulement à jauge mixte, enfin jauge à 50%, pardon, il y avait 23 000 spectateurs. Et ben, j'ai quand même eu l'impression, je l'ai oublié, et pendant le match, j'ai l'impression qu'il faisait du bruit pour 50 ou 60 000. Donc là-dessus, ça a été quand même un plaisir de revenir à cette impression-là.
Je passe à mon coup de cœur, moi aussi. Moi, mon coup de cœur, c'est un homme qu'on avait un petit peu oublié. On a parlé beaucoup hein, de Benzema, Mbappé, Griezmann. On a parlé même quasiment que d'eux. Moi, je voulais retenir Paul Pogba, qui pour moi a été le leader en dehors, sur le terrain, qui a incarné cette envie de ne jamais baisser les bras, de toujours porter l'équipe sur son dos. Et s'il y avait eu 11 Paul Pogba, je pense que la France aurait été en rendez-vous le 11 juillet en finale de l'Euro. On peut lui reprocher, il y en a déjà qui lui ont reproché cette perte de balle, comme la maman Rabiot, hein, qui lui a reproché cette perte de balle sur le troisième but. C'est complètement occulté et oublié tout ce qu'il a fait avant. On va parler sur le terrain. Alors sur le terrain, il y a son ouverture pour Hernandez, premier match, donc ça débloque tout. Son ouverture pour Mbappé qui provoque le pénalty face au Portugal, ça aussi, ça débloque tout. Il y a sa frappe fantastique face à la Suisse qui permet aux Bleus de mener 3-1. Il y a tout ce qu'il a fait sur le terrain, c'est-à-dire que tout est parti de lui. Ça a été le détonateur de 90% des situations dangereuses de l'équipe de France. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est tout ce qu'il a fait en dehors du terrain, dans un groupe, on l'a dit tout à l'heure, qui était un tout petit peu plus désuni qu'en Russie. Et ben lui, il a fait les JO du Club Med. Il a essayé de rapprocher tout le monde. C'est le seul qui était aussi pote avec Griezmann qu'avec Mbappé et Benzema. Et croyez-moi, ça compte dans un groupe. Il fallait le voir aussi remobiliser ses troupes à la sortie des vestiaires avant le Portugal. C'est un personnage solaire. C'est un personnage qui a pris une autre dimension. Ça a été le meilleur bleu pendant 7 euros. Et ça fait plaisir parce que longtemps, l'histoire de Paul Pogba avec l'équipe de France a été contrariée, je dirais, jusqu'à la Coupe du Monde 2018. En 2018, il a été bon, mais dans un rôle un peu plus dans l'ombre, donc pas forcément au premier plan. Là, il y a tout qui a été réuni. Malheureusement, ce n'est pas allé au bout. Donc, on ne lui rendra pas la justice. On ne lui rendra pas justice, finalement. Mais franchement, Pogba, merci. Merci la pioche. Quoi.
Deux images de Pogba qui me reviennent. Évidemment, il y a toutes celles que tu as citées. Cette passe fouettée contre la Suisse en extérieur. Coman, je crois, je ne sais plus.
Coman, oui, Coman.
Voilà, c'est vraiment c'est le geste, pas inutile à la fin, parce qu'il n'amène à rien, mais c'est formidable. Une autre image dans le vestiaire, dans la sortie du vestiaire contre le Portugal, c'est lui qui rameute les troupes, personne d'autre. Ils sont tous autour de lui, ils discutent avec lui. Et sa célébration contre la Suisse, j'ai vu ici et là qu'il en avait trop fait. Moi, je la trouve formidable, sa célébration.
Bah oui.
Parce qu'il marque le but. Il ne célèbre pas, il ne court pas, il s'arrête. Puis après, il fait ses petites danses. Ça va, je veux dire, pour tout ce qu'il a fait pendant l'Euro, ça, cette célébration-là, elle était pour tout ce qu'il avait fait avant et les buts qu'il n'avait pas marqués. Et dernière chose pour Paul Pogba, si aujourd'hui, on me demandait un capitaine pour remplacer Lloris, j'aurais pas pensé dire ça un jour. Je pense que je lui donne le brassard, tout simplement.
Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est le leader de cette équipe de France, sur et en dehors du terrain. Un petit coup de griffe, Maxime.
Ben, un petit coup de griffe, vraiment, j'allais dire, à contre-cœur, comme tous les coups de griffe, parce que c'est, je ne l'ai jamais caché, c'est un joueur que j'adore, c'est Antoine Griezmann, qui a basculé du côté trop bon, trop... Voilà. Pour moi, cet euro, il l'a subi. On a vu les défauts que peuvent avoir un joueur collectif. Voilà. Et le pire, c'est que quand il laisse les coups francs, quand il laisse les pénaltys, quand il laisse tout, quand il se met à droite et qu'il ne dit rien jusqu'au moment où il va le dire à Deschamps, c'est pas, il lâche pas. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui diraient « Ok, vous ne me prenez pas en considération, je laisse tomber, les gars. Je n'ai pas la peine, démerdez-vous. » Lui, il ne le fait pas. Et je pense qu'il en est aussi malheureux parce qu'il n'a pas l'impact qu'il devrait avoir et qu'il mériterait d'avoir sur cette équipe. Moi, j'ai envie de lui dire « Muscle-toi un peu. » Alors, c'est bizarre de dire ça pour un joueur qui a joué avec Simeone. C'est bizarre de dire ça pour un joueur qui défend comme un chien, qui est un exemple de don de soi. Mais à un moment, il faut assumer. Les ballons, il faut aller les prendre. Alors, je ne parle pas du pénalty contre le Pays de Galles parce que c'est un super geste et il a raison de le faire. Le coup franc contre la Hongrie, non, non. Tu prends le ballon, Antoine. Tu vas le tirer. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas. Mais à un moment, il faut y aller parce que c'est pour le bien de l'équipe. C'est pour son bien, lui, c'est le bien de l'équipe. Et moi, je persiste à penser et à croire qu'une équipe de France avec un Griezmann qui ne va pas bien, c'est une équipe de France qui ne va pas bien. De toute façon, il n'y a qu'à le voir. En 2016, c'est comme ça. 2018, c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais il est passé au Barça. Il y en a qui sont venus me dire ça. C'est plus le même joueur. D'accord, mais il a 30 ans, Antoine Griezmann. Hein. Il n'a pas 35 ans.
Prenez ces deux dernières années en équipe de France, c'était le joueur avec le plus de passes décisives et de buts. Donc voilà, il gardait son influence. Griezmann, le problème, c'est que ça a été un euro de compromis, ça a été un euro d'entre deux. Et au final, bah, c'est un euro qui n'est pas bon du tout. Mais il y a aussi derrière ça, Maxime, la responsabilité de Deschamps.
Oui,
voilà.
Oui. Non, mais c'est sûr.
Parce que ça a été la première victime du retour de Benzema. Parce que Benzema et Griezmann ont un peu les mêmes zones d'influence. Ils aiment bien jouer dans l'axe du terrain et fluidifier le jeu. Peut-être qu'il y en a un de trop. C'est une question à laquelle il va falloir répondre sur l'année et demie qui vient. Ben moi, mon coup de griffe, Maxime, ben c'est la réponse à ton cœur. Parce que alors moi, pour le coup, 7 euros, alors, il ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas vu d'unité. Et alors, il y a plein de choses. Je n'ai pas vu une mascotte, un ballon, rien du tout, pas d'ambiance dans les villes, rien de rien, hormis la fan walk des Français en Hongrie avant France-Portugal. J'ai pas eu de frisson. Alors oui, Ferenc Puskás plein Hongrie-France, c'était fantastique, mais déjà il y avait 15 stades qui étaient pleins. J'arrive pas, quand on se souviendra de 7 euros, je sais pas quelle image on aura en fait. Je sais absolument pas quelle image on aura. Alors en plus, c'est un euro détérioré par les conditions sanitaires. Bon, voilà, on n'y peut rien, mais en même temps, c'est comme ça. Il y a plein de supporters des irrésistibles français, notamment, qui devaient venir face à la Suisse. Au final, ils sont pas venus. Mais franchement, l'ambiance face à la Suisse, alors moi, j'ai pas été transporté, sauf quand la Suisse s'est qualifiée. Et là, effectivement, on a entendu les Suisses, ils étaient 800. Ouais, quand ils se sont qualifiés.
Non, mais les 5 minutes entre le pénalty et c'est incandescent. Ah, c'est fantastique.
Ah, moi, je n'ai pas entendu. Moi, c'est pas l'ambiance qui m'a transporté. Ce qui s'est passé sur le terrain m'a complètement transporté.
Le public s'est pris au jeu quand même. Ah, franchement, contre la
Suisse. Oui, mais on était dans des villes. Franchement, ça... il fallait le savoir hein, qu'il y avait l'euro dans ces villes-là. Hein, parce que très honnêtement, que ce soit Bucarest, Budapest et encore plus Munich,
non, mais
c'était morne pleine totale.
Donc, on est d'accord, mais ça, c'est les conditions sanitaires et ce que je dis en dehors du stade. Mais quand même, moi,
oui, mais c'est aussi c'est compliqué d'avoir un euro incarné dans 160 villes différentes et dans 37 pays.
J'ai fait un euro en Ukraine, c'était qu'en Ukraine et en Pologne, et c'était morne pleine aussi.
Et la dernière chose, c'est que ça a aussi obligé les sélections à faire des trajets, à s'adapter au dernier moment. Quand tu ne sais pas dans quel pays tu vas à 90 minutes avant de jouer ton dernier match, c'est très compliqué d'organiser tout ça. On avait des Bleus qui avaient des conditions de logement qui n'étaient pas adéquates avec une grande compétition internationale. On a la Suisse qui a fait Bakou, Rome, qui allait un peu partout. La France qui a joué un match en Hongrie à 15h, qui termine première de son groupe et qui a trois jours de moins de récupération que le
troisième. C'est l'orga, ça.
Ah oui, c'est l'orga. Mais tout ça participe au fait que ça a été un euro pour moi, enfin, jusqu'ici en tout cas. Alors peut-être qu'avec les demi-finales, la finale à Wembley, là, il va y avoir une incarnation et quelque chose dont on se souviendra. Pour le moment, moi, je reste sur ma forme.
Sur ça, le problème, c'est qu'on ne va pas dans le bon sens parce que là, c'est par l'absurde. 7 euros à 11 pays, c'était Platini qui l'avait voulu pour célébrer les 60 ans de l'UEFA. Mais la Coupe du Monde 2026, Canada, Mexique, États-Unis. Quand tu vas aller faire Vancouver, Orlando, ce sera autre chose que ce voyage-là et l'unité sera dure à trouver. Sauf que ce sera très sympa d'être à Vancouver et Orlando.
On est d'accord. Bah, peut-être que tu y seras d'ailleurs, Maxime.
Écoute.
Non, tu auras passé, l'âge de la
retraite. L'âge canonique,
regarderas ton rocking chair.
Alors oui, mais sauf que tu te souviens que ma retraite, j'irai la passer en Floride.
C'est vrai, Maxime.
Donc j'y serai de certaine manière.
En tant que spectateur.
En tant que spectateur.
Exactement.
Je serai fixeur.
Maxime, il est temps de passer aux choses qui fâchent. Ouais, il est temps de passer. Alors déjà que.
Ouais, déjà que c'est pour la fête.
On était nuls. Mais alors maintenant qu'on n'est plus à l'euro. On va être extra nul, Maxime.
Mais non, parce que là, c'est la bascule, tu sais bien.
Ouais, la fameuse bascule.
La bascule, alors, c'est maintenant, on va voir les matchs.
Il devait y avoir la bascule en huitième. Ouais. Ça a été dramatique. Je crois
c'est un peu trop tôt.
Je vais regarder, mais je crois que j'ai pas un.
Là, je vais aller voir. Oui, on va aller voir.
Je crois que j'ai pas un bon résultat en huitième. Alors, un perfect, ça, c'est une certitude.
J'ai trois bons résultats. Non, tu peux pas. Tu peux
j'avais donné l'Ukraine. J'avais donné la Suède. Qualifié. J'avais donné l'Allemagne qualifiée, j'avais donné la France qualifiée, j'avais donné la Croatie qualifiée, j'avais donné le Portugal qualifié, j'avais donné la République tchèque qualifiée, j'ai juste l'Italie.
Ah ouais, c'est
fort. J'ai donné aussi le Pays de Galles. Donc j'ai 1 sur 8. Voilà.
Moi j'ai 3 sur 8.
J'ai pris un peu de risque. Les cartes finales, Maxime ?
C'est parti. On va démarrer donc. On va démarrer vendredi avec.
Suisse-Espagne.
Avec France-Espagne. Suisse-Espagne. Saint-Pétersbourg. 2-1 pour l'Espagne.
Moi, j'ai envie de donner la Suisse. Hein. J'ai envie de donner la Suisse. Je suis obligé de donner des grosses cotes, donc je vais donner la Suisse.
Non, attends, Martin. On va faire un temps mort. Là. Ça ne sert plus à rien, tes grosses cotes. Hein. Tu ne vas pas remonter. Hein. Il y a trop d'écart. Hein. Là, c'est.
T'as raison, mais je vais quand même donner la Suisse. Allez, je vais quand même donner la Suisse 2-1. Belgique-Italie. Alors ça, je vais donner la Belgique quand même. Je pense que l'Italie va se fracasser les dents face au nouveau réalisme belge. Et je vais donner un 1-0 Belgique.
2-1 Belgique. Samedi, c'est un peu le samedi des improbables à l'Euro. Parce que si on m'avait dit que dans les quatre derniers qualifiés de ce côté-là, il y aurait la République tchèque, le Danemark, l'Ukraine, je n'aurais pas cru. Et l'Angleterre, je me serais peut-être attendu à ce qu'il se plante avant parce que c'est l'Angleterre. Voilà, tout ça, pour le plaisir. Donc, on a quand même un quatuor assez étonnant et détonnant. Et ça commence samedi donc à 18h.
Alors, tu vois, vu que les quarts sont inattendus, peut-être que c'est là, Maxime.
Qu'on va faire la différence.
Ben oui, peut-être
la fameuse bascule.
Ces affiches improbables que finalement, on va se révéler. Donc, moi, Danemark-République tchèque, par exemple, hein,
mais là,
je pense que je me donne le bon résultat.
Ah, ben, je sais ce que tu vas dire, mais ça va être terrible. Ça va être encore.
Non, 3-0 Danemark.
Ah oui, d'accord, c'est pas un énorme risque.
C'est quand même un petit risque. Mais vas-y,
un petit risque, ça aurait été de dire la République tchèque.
Ben vas-y.
Ben non. Mais non, mais j'ai pas dit que je prenais des risques. Danemark 2-0.
Et Ukraine-Angleterre.
Et attention, parce que là, les Anglais, ils vont venir se plaindre, mais ils jouent pas à Wembley pour une fois.
C'est vrai.
C'est à Rome, donc ça rentre en ligne de compte. Mais je vais donner l'Angleterre quand même.
Tu donnes l'Angleterre ?
Ouais, 2-0. Cela dit, ce sera tellement anglais qu'après avoir sorti l'Allemagne, ils se pètent les dents sur l'Ukraine et. Souvenez-vous de l'Ukraine contre la France, la machine à défendre.
Moi, je pense qu'ils se font sortir au péno.
Ça, c'est
0-0. Et je mets 0-0.
Donc 43 x 2, tu ferais 86 points. Ce qui te permettrait de remonter à la 4700e place.
Ouais, sur 5000, ce qui serait quand même pas mal. Bon, autant vous le dire, on est complètement naze. Donc,
on est nul. Évidemment. Attendez. On va vous dire les choses. Mais il faut quand même dire les choses. Quand on a monté le deal avec MPG, MPP, c'était de dire, les gars, vous prenez pas au sérieux.
Bien sûr, on fait les clowns, mais au fond, on est des scientifiques. En fait, tout ça, c'est un
rôle. Est-ce que ce serait drôle qu'on ait le bon partout ?
Ben non, mais évidemment, nous, on est là pour faire plaisir aux gens. Voilà, on est là pour se faire déglinguer. On est là pour prendre sur nous. Mais en vérité, on sait très bien que c'est l'Angleterre qui va passer, le Danemark, et on connaît les vrais scores. Mais on joue des rôles, Maxime. C'est comme ça, c'est le grand théâtre de la vie.
Le grand théâtre de la vie, c'est beau.
Dont nous
la comédia dell'arte.
Exactement.
Nous sommes que les pantins. Voilà.
Exactement. Et ben, ce théâtre, le rideau se referme, Maxime. Voilà. C'était la dernière Stream Team, le dernier FC Stream Team de 7 euros. Donc, on remercie tout le monde encore une fois. Je vais essayer d'oublier personne.
Vas-y.
Adrien You.
Je serai là au backup.
Simon Farvac. Anne Thirion.
Ouais.
Sébastien Petit. À la réalisation. Donc, c'est les quatre qui nous ont aidés à monter toutes ces émissions. Quentin Guichard au visuel. Voilà. On remercie évidemment toute la rédaction d'Eurosport. Ah oui. Qui a mis les vidéos, etc., qui a parfois fait un travail de l'ombre, mais au moins aussi essentiel que le nôtre, voire plus parfois. Qui en remercie d'autres, Maxime, on remercie la vie.
Merci la vie, merci l'amour, merci le football. Bravo, pas merci la Suisse.
Non, pas merci la Suisse.
Faut quand même pas déconner.
Non, faut quand même pas déconner. Merci Maxime pour l'expertise, le don de soi, le don de soi. Il faut savoir que Maxime, pendant 15 jours, c'était pas voir face à l'Allemagne. C'est-à-dire que le mec, s'il fallait donner sa vie,
il est Griezmann, tu vois.
Non, pas voir, faut pas exagérer quand même. Parce que, disons que tu as du mérite. Le talent, ça viendra peut-être pour le Qatar. Mais tu as du mérite. Tu as le mérite d'être là.
Vient trop tard.
Hein. On va dire que tu as le mérite d'être là. Mais Maxime, qui est un formidable compagnon d'aventure, il faut quand même bien le dire. Et il faut quand même que tout le monde soit au courant que ça. Parce que ça a beau être un chef, il est quand même bien sympa.
Je veux ça sur mon épitaphe.
C'est quand même bien sympa. Il est quand même bien sympa. Voilà. Alors, il bouffe comme un goré.
J'allais y venir. Martin, qui fut un formidable compagnon d'aventure, encore une fois, c'est la troisième fois de suite d'ailleurs.
C'est vrai.
Cette fois, on n'a rien ramené, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. En même temps, on n'est pas sur le terrain.
Il n'y a pour rien.
Martin, qui m'a impressionné par ses assiettes.
Ah oui, imbattable.
Qui m'a impressionné par ses petits déjeuners. Parce que c'est du salé tous les matins.
Ah bah oui.
C'est fort. Et du bacon qui n'est pas toujours cuit comme il faut. Donc, je me suis toujours inquiété pour sa santé intestinale, mais apparemment, c'est passé.
Ah, t'as pas tout su.
J'ai pas tout sûr.
Non, t'as pas vu les coulisses.
Voilà. Et enfin, pour un jour, je vous montrerai la vidéo, 2-3 pas de danse, debout sur une table.
C'est vrai que t'as pris cette vidéo.
Je sais plus pourquoi il était content, mais en tout cas, il était content, donc ça m'a fait plaisir. Ça serait presque le générique de fin si on pouvait le mettre. Voilà.
Ouais. Donc voilà. Bah, merci à tous. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. C'était chouette, c'était une belle aventure. On espère qu'on reviendra un jour sous une forme ou sous une autre, on verra, ici ou ailleurs. Mais merci à tous, merci à Eurosport, merci tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous. Le FC Stream Team continuera pour les demi, pour la finale, en mode plutôt hebdomadaire. Et puis, restez avec nous, restez sur le site, évidemment, pour le Tour de France, pour tout ce qui se passe par la suite, les Jeux Olympiques qui vont débarquer. Et puis, on se retrouve.
Abonnez-vous.
Abonnez-vous, exactement. Et puis on se retrouvera pour la rentrée, les débuts du championnat, la Ligue des Nations pour ceux qui suivent les Bleus. Évidemment, merci à tous et à bientôt. Ciao.
Salut.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.